décidé d'annuler cette fête du 7 mars et de la reporter pour le 14 mars. Donc ça va se faire le 14, donc, parce qu'on donne la priorité à la vie de l'Église.
Merci, merci.
Ouais, votez pour moi.
Merci.
Votez pour moi.
Mais j'ai vraiment apprécié, puisqu'on a, on a discuté ensemble, moi et Ange, et j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit. Bon, ok, on remet pour le 14, puisque le 7, il va avoir quelque chose d'important ici à l'Église, donc pour les dames. Donc, ouais, ben, je vais laisser la, ça là. Et on a déjà prié, donc je vais encore prier puisque je vais parler sur la prière. Donc, Seigneur, nous t'approchons, Seigneur, avec humilité. Je t'approche avec humilité, Seigneur, puisque je sais qu'avec ma connaissance, avec ma capacité, je suis vraiment limité, Seigneur, mais avec ton Saint-Esprit, avec ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, et nous pouvons faire tout par ta grâce, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que, alors que je vais aborder sur le sujet de la prière, que tout le monde puisse connaître la raison de prière. Peut-être que tout le monde le connaît déjà, mais que tout le monde soit inspiré de t'approcher un peu plus, Seigneur, avec la prière, Seigneur. Et je sais que cette église, c'est une église aussi de prière. Et c'est pour cela qu'on enseigne la prière ici, Seigneur, dans ta parole. On veut que l'église Tana City, dans le culte malgache, anglophone et francophone, soit des églises, des gens qui prient, Seigneur, et qui t'aiment, Seigneur, et qui partagent leur vie avec toi, Seigneur. Merci pour l'onction, Seigneur, et je te remercie puisque je sais que tu es avec moi et que tu parles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, même avec ma parole qui n'est pas peut-être bien arrangée ou la phrase qui est parfois pas parfaite. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main dans les mots et que tu masses, tu fais un massage dans nos cœurs, Seigneur, sur ta parole. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme introduction, je veux vous dire que je me réjouis du fait que nous pouvons voir ensemble en tant qu'Église. Pas seulement l'église francophone, mais les trois églises, les trois assemblées, voir ensemble les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Et le fait de revoir, ou pour les autres, de découvrir ces bases-là, nous rafraîchit dans le Seigneur. Amen. C'est pas le cas. La semaine passée, c'était vraiment waouh. Je me suis dit waouh, Seigneur. Je te louais comme David, encore plus que jamais. Et merci Priscille pour le temps de louange. On a adoré le Seigneur ensemble. Et la semaine passée, comme Kim nous a emmené à penser sur notre engagement personnel sur le sujet de la louange, cette semaine, je vais en parler sur... aujourd'hui, je vais en parler sur... la prière, comme je l'ai déjà annoncé. Mais tous ces fondements, tous ces enseignements qu'on croit comme acquis, comme déjà des choses qui sont très basiques, sont parfois des challenges. Je ne sais pas pour vous, mais même la semaine passée, quand on entend ces enseignements, l'enseignement sur la louange, on a des challenges, on a des défis. Puisque est-ce qu'on loue le Seigneur comme le Seigneur l'attend? Est-ce qu'on le fait vraiment? Et pareillement, avec la prière, peut-être que moi j'ai mon temps de prière tous les matins ou tous les soirs, toutes les soirs. Prière, c'est banal, quoi. Mais en fait, est-ce qu'on comprend très bien? Est-ce qu'on est... Bon, du coup, j'espère que l'enseignement que je vais apporter cet après-midi va nous inspirer, comme ma prière, de prier avec ferveur, de prier le Seigneur avec une bonne motivation, et que le Seigneur nous bénisse dans sa parole. Si vous avez raté les prédications dernièrement, je vous invite à consulter le site web de l'église, qui est tanacitychurch.mg, et vous pouvez voir, vous pouvez consulter toutes les prédications, si vous voulez, en malgache, ou en anglais, ou en français. Donc, vous pouvez voir tous les fondements de la foi chrétienne dans ce site web-là. Bon, je vais entamer. J'ai 6 points, et celle-ci est mon premier point. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la prière? Bon. L'ennemi ne veut pas te voir communier avec ton Dieu, ça c'est sûr. Il va te trouver des excuses pour ne pas le faire. Et Dieu merci à la grâce, mais parfois on profite trop cette grâce-là. Mais parfois c'est pas vraiment la grâce quand on s'appuie sur le fait de ne pas prier. Mais c'est quelque part l'ennemi qui donne des fausses excuses. Et pas seulement l'ennemi, mais aussi, quels sont les trois ennemis d'un chrétien? Donc, c'est Satan, premièrement, et la chair, donc nous-mêmes. La plupart du temps, les gens disent, tout ce qui se passe dans leur vie, tous les problèmes sont causés par l'ennemi, par Satan. Mais en fait, nous sommes parfois notre ennemi. Et quoi d'autre? Le monde. Voilà. Et parfois, ces choses-là, l'ennemi, Satan, notre chair, le monde, ont des raisons qui sont peut-être quand on est faible, quand on est vraiment... Donc on donne la raison, ok, on se lâche et on lâche prise et on n'a pas cette communion, on n'a pas cette relation de cœur avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que la prière ? Les dictionnaires, si on consulte les dictionnaires, vont nous donner des définitions assez vagues, des définitions quand même sèches sur ce sujet-là. Mais par contre, la Bible a beaucoup à dire sur la prière. Et là, on peut tirer un éclaircissement, des exemples, des types de prières, des résultats sur la prière. Mais comme définition, je vais prendre cette définition-là. La prière, c'est un moment, tout d'abord. C'est un moment, c'est un dialogue. Puisque quand on prie, on prend un moment, déjà. C'est un dialogue, puisque au moins deux personnes, Dieu et toi. Et c'est une action visible ou non. Donc, j'ai donné la définition de la prière comme un moment, un dialogue, une action, visible ou non, qui reflète notre dépendance à un être supérieur dans une définition globale. Mais comme nous sommes, je l'assume, tous des followers Christ, chrétiens, c'est simplement le fait de se communiquer avec Dieu prendre un temps de dire ce qui est dans nos cœurs, de l'écouter aussi à travers la lecture de la Bible ou à travers notre moment de méditation et d'écoute de cette directive, ce qui est dans son cœur. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, que Dieu parcourait le jardin vers le soir. Pour faire quoi? Pour converser avec Adam et Ève. Donc Dieu, notre Dieu, aime cette conversation, cette relation de cœur avec son peuple, avec ses élus. Donc Dieu, là, a voulu une communion dynamique avec nos ancêtres, Adam et Ève, et de même avec nous. Il veut cette communion ou communication dynamique avec nous. Il est écrit dans Marc 12, verset 30, Jésus a dit, « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ta pensée et de toute ton énergie. » De toute ta pensée. Le Seigneur, il veut que tu penses à lui. Et ces moments de prière, ces moments de communion avec Dieu, ce sont des moments là où on se reflète, là où on pense, on se concentre à un être qui nous a créé, notre Créateur, Dieu. Donc la prière, ce n'est pas un rite à accomplir. Bon, il y a des gens qui, ils te donnent des pénitences, des leaders religieux, ils te disent, il faut que tu pries notre Père sept fois. Et Ave Marie, je ne sais pas, 20 fois. Et bon, ce n'est pas un rite à faire. Et ce n'est pas un ordre à faire, à obéir. Mais vraiment, c'est une relation de cœur à cœur. Un amour. Un couple qui ne s'aime, qui s'aime, mais qui ne se parle pas. Ce n'est pas un couple, en fait. C'est un mythe. Ça n'existe pas, leur mariage. Donc là, quand on aime Dieu, on est inspiré à parler à lui, à s'adresser toutes nos peines, pas seulement toutes nos peines, mais à le remercier. Tout au long de la Bible, on peut voir l'histoire d'amour entre un Dieu et son peuple. Et un refrain de la Bible qui se répète de temps en temps, et cette phrase-là, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et c'est vraiment fascinant puisque un Dieu qui est vraiment constant et nous, bon, tout d'abord le peuple d'Israël qui est vraiment inconsistant, qui change d'avis de temps en autre, mais ben, malgré tout cela, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Juges, l'histoire de cercle du péché. Là, il y a Israël qui suit le Seigneur et après, ils sont à l'aise, là, tout est bien. Donc, ils commencent à oublier le Seigneur et à révolter, à être contre les Seigneurs. Et là, après, ils ont la souffrance et après, le Seigneur les envoie un juge pour les aider. Après, ça revient dans un cercle qui ne se termine pas. Mais dans l'inconsistance humaine, Dieu qui est constant veut que tu sois amoureux de lui, que tu prends un temps pour lui qui t'appelle, qui t'a choisi. Donc ces moments-là, ces moments de prière, ces moments de communion avec l'Éternel, avec ton Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé tout ce que tu vois, et un Dieu qui t'appelle avec amour de prendre un temps, de parler, de discuter, de l'écouter et d'ouvrir nos cœurs aussi devant lui. Il nous a prouvé cet amour par son don de son Fils et par le sacrifice de propitiation qui est un terme théologique qui veut simplement dire Dieu a apaisé la colère à travers le sacrifice de Jésus. Nous avons un accès libre au Père. Nous avons cet accès qui est vraiment ouvert. Et parfois, nous prenons comme chose acquise. Oui, bien, c'est un fait. Nous sommes sauvés. Mais après le salut, il y a une vie de relation qu'on doit vivre avec notre Seigneur. Et ça, c'est à travers la prière. Jésus a révolutionné la relation entre Dieu et homme. Il a appris à ses disciples à appeler Dieu comme leur père, comme leur papa. Personne d'autre a enseigné de cette façon. Appelez votre Dieu quand vous adressez à votre Dieu. Appelez-le Abba, appelez-le papa. Et ça, c'est vraiment un privilège d'avoir un Père qui est accueillant à la fois et qui attend de nous de communier avec lui. Et la prière, c'est ça, c'est une communion avec notre Père. Un Père parfait, un Père aimant, un Père juste, un Père puissant, créateur de l'univers, veut que tu sois en relation avec lui. Waouh! Peut-être que ton père terrestre, ton père qui est humain, est vraiment humain. Mais là, tu as un père céleste qui t'attend à converser, qui t'attend à avoir une relation avec lui. Je veux que vous voyez ce privilège-là, d'être en relation avec le Père céleste, le Père créateur de tout univers. En deuxième point, donc pourquoi donc devons-nous prier? Comme je l'ai déjà dit, s'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de relation, ou du moins, la relation qu'on a est pauvre. Nous prions parce que c'est un privilège, une grâce donnée. Un don. Le fait de pouvoir prier, c'est un don. Le fait de pouvoir prier librement, c'est une grâce. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas prier avec cette liberté qu'on a et qu'on doit profiter en fait, cette grâce-là. Mais c'est un don, comme la repentance qui est vraiment un don. Le pouvoir se rapprocher du Seigneur. La prière aussi, c'est un don venant de Dieu pour qu'on puisse communiquer avec notre Père Céleste. Mais Ésaïe 55, verset 6, qu'on lui est déjà affiché là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire cette passage biblique-là. Ésaïe 55, verset 6. Là, tournez-vous vers l'Éternel, tant qu'il est là. Donc c'est un encouragement de Dieu. Dieu nous encourage à tourner vers lui, tant qu'il est encore là. J'aime bien, il y a un passage, je ne sais pas, c'est en psaume chapitre 6, je pense, qu'il est écrit « Embrasse le Fils tant qu'il est encore pas en colère. Donc c'est ce moment-là, c'est cette période de grâce-là qu'on a. Donc le Père, Dieu nous encourage à lui approcher, à prier. Donc Éphésiens chapitre 6, verset 10. Si quelqu'un peut encore lire. Est-ce que vous pouvez passer verset 18? Verset 18. Merci, merci. Donc pour les gens qui écoutent cette prédication après l'enregistrement, je vous invite à prendre votre Bible et lire, comme on ne peut pas enregistrer les voix là, mais je vous invite à lire votre Bible par vous-même sur ces passages bibliques. Mais là, en Éphésiens 6, chapitre 10, chapitre Paul, Paul sollicite les Éphésiens à puiser notre force dans le Seigneur et dans sa puissance. Puiser notre force dans le Seigneur, dans sa puissance. Donc la prière, c'est un moment qu'on puisse puiser notre force dans le Seigneur, puisqu'il est puissant, dans sa puissance. C'est pour cela qu'on doit prier, qu'on doit avoir ce moment de communion avec le Seigneur, puisque c'est là notre force, le fait d'être avec notre Seigneur. Et en verset 18, Paul exhorte à faire toutes sortes de prières sous la conduite du Saint-Esprit. Donc il y a des tas et des tas de sortes de prières. Il y a la prière de supplication, la prière de, je ne sais pas, vous pouvez mentionner un ou deux. Action de grâce, quoi d'autre? Bon, c'est vraiment le moment d'apprendre sur la prière. En fait. Et en Philippiens 4, 6, Paul disait aux Philippiens d'exposer leurs besoins à Dieu. Quelle grâce, quel Dieu. Exposez vos besoins. Pourquoi raconter notre besoin à telle ou telle personne? Et là, nous avons le Dieu qu'on a chanté, Dieu qui est notre providence, qui pourvoit. Waouh, je prêche à moi-même, hein, en fait. Parce que parfois, il y a des tas et des tas de trucs qui arrive dans ma tête et comment je vais faire? Et alors que Dieu est là, vraiment accessible. Il n'attend, il ne fait que. J'espère que cette situation-là va me ramener, va lui ramener à moi, son Père, son Créateur, son Père d'écoute. Adressez leur prière, adressez votre prière. Requête et montrer votre reconnaissance par la prière. Donc pourquoi prier? On est encouragé, on est encouragé de le faire, car c'est le temps propice de remplir ce besoin de relation avec Dieu. On prie parce que c'est un moyen de puiser notre force, d'exposer ce qui nous manque, de montrer notre dépendance. De montrer notre dépendance. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est indépendant de Dieu, donc un chrétien qui est vraiment pauvre. Jean 15, verset 5. Je crois que je dois lire, hein, puisque... Ok, je vais attendre, je dois attendre encore. Jean 15, ouais, je sais, mais 15, 5, est-ce que c'est là? Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et qui... En qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le fait de demeurer dans le Seigneur, le fait d'être là constamment, dans un cœur qui prie le Seigneur, qui dépend au Seigneur, c'est là où Dieu intervient. Nous ne pouvons accomplir quelque chose qui est éternel sans l'intervention divine de Dieu. Bon, sans prière, on peut accomplir des tas de choses. On peut construire une route sans prière. On peut construire un hôpital Manara Pench sans prière. On peut, on peut citer des choses, des tas de choses sans prière. Mais quelque chose d'éternel, quelque chose qui va durer éternellement sans Dieu, sans la prière, sans le fait d'être en communion avec Dieu, on ne peut pas le faire. Et nous, on prie pour cette intervention divine de Dieu. Donc nous prions parce que la main de Dieu agisse dans la prière. Oui, il y a la grâce, il y a Dieu qui est souverain et qu'il fait ce que bon lui semble. Mais parfois, il y a des situations, et la plupart du temps, la vie chrétienne, là, Dieu attend ses gens, ses élus, de prier pour faire avancer des choses dans son royaume, des choses qui dure éternellement. La prière nous change et la prière change les circonstances. Parfois, les circonstances ne changent pas à travers nos prières, mais c'est nous-mêmes qui sommes transformés par ces moments de prière. Et parfois, ce sont les circonstances mêmes qui sont vraiment changées à travers nos prières. Et on a vu la main de Dieu agit maintes fois dans nos vies à travers la prière. Dans la prière, nous trouvons la volonté de Dieu et la volonté aussi de pardonner. Quand on prie pour quelqu'un qui nous a blessés, c'est dans la prière qu'on trouve la force de pardonner. C'est dans la prière qu'on trouve le courage de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est dans la prière que notre Dieu, par la voix du Saint-Esprit, nous révèle toute chose qui doit être détruite, des autels qui doivent être détruits dans nos vies. Dans la prière, nous trouvons la force de persévérer. Veux-tu persévérer dans la prière? Il faut être persévérant dans la prière. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais pour persévérer, il faut persévérer dans la prière. La prière nous donne le zèle de courir notre course que Dieu a placée devant nous. Amen. On a cette course à faire. Notre vie en tant que chrétien est une vie de course. Et Dieu les a placés devant nous pour qu'on puisse bien courir. Et on peut le faire seulement à travers notre communion de cœur à cœur avec notre Créateur, avec notre Père. Troisième point. Bon, il y a des exemples de prières dans l'Ancien Testament. Il y a dans Genèse 18, verset 22, la prière d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me prêter sa Bible? Parce que là, je veux peut-être faire un marathon, vite fait. Oui, ok. Je l'ai déjà. Merci. Oui, ça va. Merci. Genèse chapitre 18, verset 22, il est dit, « Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. » Là, dans des versions, d'autres versions, c'est le fait de se tenir en présence de l'Éternel, c'est la prière. Donc les autres, ils sont partis à aller, à attaquer, en direction de Sodome. Abraham, il continuait à prier, la prière d'Abraham. Il s'approcha, et vous pouvez lire ce passage-là, et vous pouvez voir la conversation qu'il a eue avec le Seigneur, notre Dieu. La prière de Jacob, en Genèse 32, verset 24. Cette fameuse prière de lutte contre Dieu, quand il a lutté, quand Jacob a lutté. Donc il y a parfois, on est forcé, on est contraint de lutter quand on prie. Donc ce n'est pas une prière qui est vite fait, une prière qui est vite fait quoi, une prière sandwich à emporter. Mais vraiment, un temps, un moment de lutte. Je ne sais pas si vous avez déjà ces moments-là, ces moments de lutte, là où il y a des sueurs, tu pries. Exemple de prière de Moïse dans Exode 31. Il y a aussi l'exemple de Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Peut-être que je vais lire cette histoire-là pour juste nous rappeler de la prière de cette femme qui est la mère du prophète Samuel même. Donc, chapitre 1, premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 1. Donc, bon, je vais sauter dans verset 10. Bon, commençons avec 9. Cette fois-ci, après quand il eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège après de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Là, un type de prière qui est parfois peut-être un peu bizarre pour les autres, mais le fait de prier vraiment à chaudes larmes, ben il y a des gens qui l'ont fait. Et c'est pas hors de la Bible. Donc parfois, tu es vraiment affligé par la situation et là, tu mets tout. Tu donnes tout au Seigneur. Et là, le problème d'Anne, là, c'est le fait de ne pas pouvoir concevoir. Et là, l'Éternel, lui, a répondu. Et là, elle a eu son fils, Samuel. Et là, j'ai marqué verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc il y a des moments que tu ne trouves plus les mots. Tu parles, mais il n'y a pas des mots qui sortent de ta bouche, puisque vraiment là, tu souffres, tu es affligé. Donc, des exemples comme la prière d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18, verset 36. Les prophètes de Baal le roi Achab et les Israélites. C'est là où Élie a prié et a démontré que son Dieu est le Dieu vivant. On a pu, on peut voir aussi la prière, un exemple de prière de Ézéchia dans 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Quand il a reçu la lettre d'insulte de Sennacherib, je ne sais pas comment le lire, donc il faut que je fasse attention. Sennacherib, qui a insulté la nation d'Israël. Et là, il a vraiment demandé l'aide de Dieu, que Dieu soit favorable avec dans leur bataille face à cet adversaire redoutable. Et on peut voir aussi un exemple de prière, type de prière dans l'Ancien Testament, celle de Jonas, hein, oui. Chapitre 2, verset 2. Et Jésus même, donc je passe déjà dans mon quatrième point, il a fait des tas de choses, toutes sortes de prières, des exemples qu'on peut suivre et qui nous montrent qu'il n'y a pas une formule gagnante dans la prière. Mais là où tu es, là où tu le sens, tu peux prier. Donc, par exemple, dans Luc, chapitre 5, verset 16, il a prié en secret. Par contre, dans Jean, chapitre 11, verset 41, il a prié en public devant le tombeau de Lazare, son ami. Il a prié dans des endroits où il pourrait être seul, avant l'aube. Bon, mon père, il a pris que c'est cette façon-là. Hein. Donc, quand tu veux vraiment avoir la présence de Dieu, il faut que tu pries avant l'aube, vers 2h du matin. C'est là la clé. Il faut que tu pries dans cette... Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous... Bon, sûrement, vous n'écoutez pas la radio que j'écoute, mais il y a une radio qui dit... Vers 3 heures de l'après-midi, c'est vraiment là le moment de prier, puisque les anges, les cieux sont ouverts à cette heure-là, à 3 heures d'après-midi. Donc, si vous écoutez la radio que je. vous allez entendre des nonsense, des choses vraiment insensées, puisque. C'est pas écrit dans la Bible. Jésus, il a prié tout le temps, dans la nuit, dans le temps de crise, dans le jardin de Gethsémané, il a prié dans Matthieu 26, 36. Après, pendant son baptême, Luc 3, verset 21, avant de choisir ses disciples, donc il est vraiment important de prier avant d'avancer dans des choses vraiment, voilà comme Denis l'a dit, spirituelles, dans des choses qui ont de l'écho dans notre éternité. Vraiment c'est important de prier. On a vraiment prié avant de commencer cette culte francophone. On a prié des tas et des tas, maintes fois. Personnelles, des prières en groupe. Et je vois et je crois que c'est la volonté de Dieu d'avoir ce moment de culte ensemble. Dieu, il a crié, Jésus, il a prié avec des cris et des larmes. Je ne sais pas si vous avez lu dans Hébreux, chapitre 5, verset 7. S'il y a quelqu'un qui trouve avant moi, il peut le lire. Bon, je pense que je vais être là. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Oh, 5-7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. La prière, c'est une forme de soumission, c'est une forme de dépendance. Donc, c'est un exemple de vie de prière de Jésus. Il y avait des moments qu'il a prié avec des cris et des larmes. Sur la croix aussi, il a crié, il a poussé un grand cri. Donc il y a des tas et des tas d'exemples qu'on peut suivre, qu'on peut faire, si on est conduit par le Saint-Esprit à le faire. Pas seulement que nous voulons faire l'intéressant ou je sais pas, au milieu de l'église, et là tu cries, je sais pas, tu pousses un grand cri qui est... Mais il y a des gens dans l'assemblée qui sont inspirés par le Saint-Esprit de faire ces genres de prières-là. Donc, ne vous affolez pas si un jour il y a quelqu'un qui crie vers Dieu, puisque là, il a vraiment besoin de Seigneur. Il a besoin de la main de notre Seigneur. Donc, je vais terminer, puisqu'il me manque de temps. Enfin, je vais finir. Donc, comment devons-nous prier alors ? Christ est notre modèle. Mais on a aussi des modèles humains, comme je l'ai mentionné, comme Anne, Élie, Jacob, David, Paul, Pierre, et vous pouvez continuer, la liste est longue. Mais Paul nous a exhorté de prier sans cesse. Comment prier sans cesse ? On peut le développer dans un autre moment. Mais Jésus aussi, il nous a dit impérativement de prier. Parce que prier, c'est nous mettre en diapason avec Dieu. Prier, c'est connaître le cœur de Dieu. Donc, nous avons des tas et des tas d'exemples auparavant. Exemple dans l'Ancien Testament, exemple dans le Nouveau Testament, exemple de Jésus. Et on peut voir aussi l'exemple, je le prends vite fait, l'exemple de Pierre et... Pierre et qui ? Il était dans un prison. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Paul et Silas, c'était pas Pierre, mais Paul et Silas, ils ont prié. Le fait de chanter, c'est une prière. Donc, on peut prier en chantant les psaumes, par exemple, en chantant des chants nouveaux ou des prières qui viennent de notre inspiration même. On peut prier en langue aussi pour nous édifier. Surtout quand on est... La Bible nous enseigne maintes fois, c'est le point que j'ai skippé, comment on dit dire ça ? J'ai sauté. Mais en fait, la Bible nous encourage à prier dans un endroit clos, là où on peut être seul, là où nous, toi et ton Dieu, est ensemble. Et là, prier en langue, puisque ça nous édifie, la prière en langue. Par contre, c'est pas avantageux pour l'assemblée. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas ici en train de prendre le micro et prier en langue. Et des tas et des tas d'autres aussi faire pareillement. Parce que la prière en langue, ça nous édifie personnellement. Donc, bon, on peut le faire si... dans l'assemblée, si c'est pour nous-mêmes, puisque c'est une édification personnelle, donc pour nous-mêmes, sans que les autres soient, vous voyez ce que je veux dire, Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ça? Ouais. Donc, priez en langue. Moi, je prie en langue. Et si tu veux avoir ce don de langue là, demande à Dieu. Demande à Dieu. On peut prier avec des mots clairs et intelligibles. Des mots qui sont des mots qu'on utilise quotidiennement. On peut le voir dans Néhémie 1, chapitre 1, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'à 11. On peut prier aussi en murmurant. Dans Romains, chapitre 8, verset 23. Comme Anne l'a fait aussi dans 1 Samuel, chapitre 1. On a pu voir tout à l'heure. Dans Exode, chapitre 2, 23. On peut prier aussi en pleurant ou en criant. Ça pourrait être un peu... les autres vont dire t'es zinzin, mais bon. Si le Seigneur t'inspire à le faire. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important d'avoir un moment seul à seul avec le Seigneur, puisque c'est là tu peux crier, tu peux pleurer. Et parfois, il y a des gens qui pleurent dans l'assemblée et qui prient en pleurant. Ce matin même, j'ai vu une dame en prenant la Sainte-Seine. Et elle priait, elle pleurait. Et c'était vraiment émouvant et c'était vraiment beau. On veut prier en silence. C'est là mon défi. Puisque là, je suis de background pentecôtiste, charismatique. Et prier en silence, c'est pas vraiment mon fort. Mais j'essaie. J'essaie d'apprécier ces moments de silence, ces moments de prière en silence, comme il est écrit en Néhémie chapitre 2. Verset 4. On peut prier aussi en poème. Bon, pour ceux qui sont forts en poésie ou en... Quelle est la forme de poésie qui est plus moderne là maintenant? En slam. Slam, voilà. On peut prier en slam. Parce que c'est beau, hein. Tu risques d'étaler tes... capacité linguistique et capacité peut-être intellectuelle aussi, mais bon, c'est pour glorifier le Seigneur, donc c'est joli, c'est beau. Comment devons-nous prier? Bon, je vous ai déjà mentionné ces moyens de prier, ces types de prières qu'on peut faire quand on prie. Et j'espère que vous pouvez vous inspirer à travers tout ce qui est dit, de prier vraiment et de vous approcher de votre Père, de notre Père, en prière en langue, en prière avec des mots clairs, prière en murmurant, prière en chantant, en pleurant, en criant, en silence, en poème. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci, puisque c'est vraiment un privilège, Seigneur. Un privilège de prier, de pouvoir t'appeler notre Père, notre Papa céleste. Et Seigneur, je prie pour cette église, ton église, à travers tout ce qui est dit cet après-midi, ce soir même, demain, cette semaine qui va venir, ce mois, cette année, de pouvoir prendre plaisir à ces moments de délices avec toi, Seigneur, de partager ce qui est dans nos cœurs. là où nous pouvons dire tout ce qui est en nous, Seigneur. Mais je sais que tu connais déjà nos besoins, tu connais déjà ce que nous allons dire, mais tu t'intéresses à ce que nous allons dire même en sachant les mots, les phrases que nous allons apporter devant ton trône de grâce, Seigneur. Mais tu prends plaisir à ces moments. Et aide-nous, Seigneur, à prendre plaisir, à prier, à communier avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Comme la matière